Que se passe-t-il quand vous appelez le 112? Quel est le bon moyen de prévenir une urgence? Pourquoi vous n'aurez pas systématiquement une ambulance qui va débouler toute sirène hurlante? Et surtout, en quoi nos technologies informatiques peuvent et ne peuvent pas aider un appel à l'aide? Toutes ces questions, nous sommes allés les poser au calme, aux personnes qui répondent au numéro 112. Et plus exactement, nous sommes dans le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, le SDIS-31 à Colomiers, qui nous a exceptionnellement ouvert leurs portes pour cette série d'émissions sur les 20 ans de la catastrophe d'AZF. Nous sommes donc avec Laurent Nicolas, sapeur-pompier au grade de commandant, et Sébastien Marat, capitaine de son côté, tous les deux chefs du centre de traitement de l'alerte au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours CTA CODIS du SDIS-31, désignés à la courte échelle pour nous répondre, et ça nous fait bien plaisir.
CPU, carré, petit, utile.
Pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à cette vocation professionnelle ?
Capitaine Sébastien Marat.
Je pense que c'est la conjonction de deux choses. C'est la volonté de porter secours à la population dans des situations d'urgence. Et le deuxième point qui est très prégnant chez nous, c'est la volonté de travailler en équipe. Je pense que la conjonction des deux choses fait que on souscrit un engagement de sapeur-pompier et on en fait, pour certains, sa carrière.
Commandant Laurent Nicolas.
De mon côté, je dirais que les motivations sont sans doute un peu moins nobles que celles de Sébastien. J'étais étudiant en sciences. On peut pas dire que ça me plaisait beaucoup. J'ai passé un concours qui était à ma portée, que j'ai réussi. Et par la suite, j'ai embrassé la carrière et le métier m'a beaucoup plu.
Actuellement, où est-ce que vous nous avez invités ?
Alors, vous êtes au CTA CODIS de la Haute-Garonne, au centre de traitement de l'alerte et au centre opérationnel départemental incendie et secours du département de la Haute-Garonne. En ce lieu unique, on réceptionne les appels, on envoie les secours sur intervention et on gère les opérations une fois qu'elles sont lancées.
Par qui est opéré le 112 en France et dans les autres pays ?
Alors, en France, à ma connaissance, c'est la société Orange. Dans les autres pays, je vous avoue que moi, je suis un petit peu dans l'embarras pour répondre.
On peut déjà vous dire, c'est Proximus pour la Belgique, ils ont eu le même incident qu'Orange 2 semaines après. Et quels sont les numéros courts qui sont opérés sur ce plateau téléphonique et donc la zone géographique opérée ?
On réceptionne les 18 et les 112. Mmh.
D'accord.
Sur le département de la Haute-Garonne, bien entendu. Mmh.
Quels sont les types d'urgences qui sont traités ici avec ces numéros ?
Sont traitées ici toutes les situations d'urgence qui concernent des personnes. Donc naturellement, le secours à personne et les ambulances tel qu'on peut s'imaginer. Les protections, tout ce qui est protection des biens. L'exemple le plus prégnant, c'est naturellement les incendies et tout ce qui est lié aussi à la protection de l'environnement.
Quand on appelle 112, quelle est la bonne manière de procéder ? Que faut-il dire et surtout dans quel ordre ?
C'est un petit peu comme pour le 18, hein. Il n'y a pas tellement de différence entre le 112 et le 18 pour ce qui concerne la réception. Ce qui est vraiment important, c'est la circonstance, ce que vous vivez, ce que vous avez souvent devant les yeux, c'est-à-dire pour nous le sinistre, la thématique du sinistre, et surtout votre localisation, le lieu où vous vous trouvez, c'est très très important évidemment. Et plus vous aurez de détails à donner, plus l'appel sera intéressant pour nos services, et l'envoi des secours sera justement dimensionné et sera très rapide.
Et donc précisément, dans quel ordre ? Et qu'est-ce qu'il faut dire, par exemple ? Incident de friteuse, par exemple.
Oui, incident de friteuse, si vous souhaitez. Vous avez un feu dans votre cuisine et vous habitez à tel endroit, à tel étage. Et ensuite, l'opérateur ou l'opératrice va vous questionner, c'est son métier, et va prendre la main sur la discussion, sur la conversation, et va vous amener gentiment à donner tous les éléments importants pour que l'envoi des secours se fasse correctement.
D'accord. Quel est le temps moyen d'attente au 112 ?
Alors, 112 ou 18, hein, parce que nous, on fait pas la différence, mais on peut imaginer, on n'a pas honnêtement de statistiques là-dessus, mais on peut imaginer 15 secondes, 15, 30 secondes maximum.
Et hors événement exceptionnel, quel est le moment le moins favorable pour essayer de vous joindre ?
Je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment de moments favorables. En tout cas, nous, on a un pic d'activité entre 16h30 et 23h. C'est en général la période sur laquelle on va avoir le plus d'appels, qui va générer pour nous le plus d'interventions. Pour autant, aujourd'hui, on a des moyens techniques qui nous permettent de joindre les numéros d'urgence sans difficulté, mais c'est notre pic d'activité, en tout cas.
D'accord. Justement, comment est traité un appel de la réception jusqu'à l'envoi éventuel des secours, justement ?
Oh ben très très simplement, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Les premiers renseignements les plus importants sont les circonstances du sinistre, le lieu, hein, et puis tout ce qui peut aller autour de l'intervention. Si vous êtes en présence d'un accident, on va vous demander le nombre de blessés, les véhicules impliqués, si la circulation est coupée. Voilà, quelque chose qui permettra à l'opérateur, ou à l'opératrice encore une fois, de dimensionner véritablement le sinistre, de le visualiser quelque part, et d'envoyer les secours qui vont bien derrière. Également prévenir les services partenaires, comme les forces de l'ordre, comme notre partenaire le SAMU, Gaz de France par exemple pour un bâtiment, Électricité de France, juste comme ça.
On marque une pause, on revient juste après une coupure musicale. Vous écoutez Radio FMR ? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat des pompiers pour parler de la prise en charge des appels d'urgence.
Alors, combien vous recevez d'appels sur ce centre en particulier ?
Capitaine Sébastien Marat.
On reçoit à peu près, alors si on mutualise les appels pour le 18 et les appels 112, environ 350 000 appels par an, qui génèrent, pour aller au-devant de votre deuxième question, environ 50 000 interventions par an. C'est-à-dire qu'on a à peu près une intervention pour 6 appels.
Et quelle proportion des appels répondus mène à une réelle intervention sur le terrain ?
À peu près une intervention pour 6 appels environ.
D'accord.
Je devine que parmi tout ce flot d'appels, il doit y avoir des plaisantins ou des personnes nullement en détresse, voire des appels de fesses. Vous en recevez à peu près combien de ces appels ?
Je tiens à signaler que cette blague était obligée pour faire un hommage appuyé à la fesse.
Oui. D'accord. Alors, pour ce qui concerne les appels de mauvais plaisantins, on en a de moins en moins.
Commandant Laurent Nicolas.
On en a de moins en moins. Personnellement, quand je suis entré dans la profession, j'étais déjà officier au CTA Codice il y a de ça quelques années, au tout début de ma carrière, c'était quelque chose qui était très prégnant. On en recevait souvent, notamment le mercredi. Les enfants s'amusaient beaucoup. Les enfants s'amusaient beaucoup. De nos jours, c'est pas du tout quelque chose qui se produit. Je pense que la technologie qui permet d'identifier chaque appelant a mis fin à ces pratiques. Et donc, il est très rare qu'on ait des appels malveillants. Très rare.
Et du coup, quel est le risque juridique pour ces farceurs ? Je rappelle que les pompiers, quand même, dépendent de monsieur notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le risque juridique, il est avant tout aujourd'hui, le service porte plainte systématiquement quand on a des farceurs, pour reprendre vos propos, qui génèrent l'envoi de moyens sur le terrain, parce que le message qu'il faut passer auprès de tout le monde, c'est une ambulance qui va aller dans un endroit où il n'y en a pas besoin, c'est peut-être une ambulance qui va manquer dans un endroit où il y en a, pour une intervention dont on a réellement besoin. Donc, il y a deux situations, soit nos collègues partent sur les lieux, à ce moment-là le service porte plainte, soit on a aussi quelques situations où il y a des personnes qui nous appellent de manière récurrente, très 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 récurrente, et là à ce moment-là aussi le service porte plainte.
D'ailleurs, vous tenez un registre sur ce genre de bêtises, un bêtisier quoi.
Non, on n'a pas du tout de bêtisier qui soit tenu. Par contre, comme le disait Sébastien, le service est très à l'écoute de ce qui se produit et suit juridiquement toutes les affaires.
Et on a vu une salle de formation. Est-ce que vous les utilisez justement dans ce cadre-là ?
Non, honnêtement, je autant que je me souvienne, il n'y a aucune séquence qui ne comporte des appels malveillants en traitement en salle de formation. Je vous dis, c'est vraiment plus du tout quelque chose qui soit vraiment sur le devant de la scène. On a aujourd'hui une forme de malveillance, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle le swatting. Mais là, c'est d'un tout autre ordre que d'un appel malveillant. C'est vraiment quelque chose d'orchestré à l'avance par des gens qui sont techniquement très au point.
Et là, on peut parler d'harcèlement, c'est-à-dire que vous êtes l'outil d'un harcèlement dans ce cas-là.
C'est un peu le principe, oui, effectivement. Les victimes se voient arriver chez elles les services de secours ou les forces de l'ordre de manière récurrente, alors même qu'elles n'ont rien demandé. Et ça aussi, c'est très suivi au niveau contentieux.
Alors, vous êtes l'objet de plusieurs lois informatiques qui concernent la vie privée, qui concernent le secret médical. On parle pas que du RGPD, il y a la loi sur la dématérialisation du dossier médical de 2004 et j'en passe. Combien de temps hors réquisition judiciaire vous pouvez conserver les appels ?
On peut conserver les appels 2 mois.
Parmi tous ces fichiers, quels sont ceux auxquels vous avez accès ?
J'ai envie de dire aucun. On n'a pas accès aux dossiers médicaux des personnes qui appellent ou des victimes potentielles. Le secret médical s'applique pleinement et en tant que service de secours, nous n'avons pas accès au dossier médical.
Ok. On a régulièrement un débat qui revient en France, qui est revenu suite à l'incident d'Orange, même s'il n'était absolument pas relaté. Faut-il basculer les différents numéros d'urgence, si on en a listé pour une séquence gag qu'on a fait en introduction de cette émission, pratiquement une vingtaine, vers un seul numéro unique qui serait plus simple à joindre? Mais est-ce que on aurait le risque de perdre du temps à bien l'aiguiller dans ce cas-là? Est-ce que ce que l'on perdrait en aiguillage serait gagné en amont ou non?
Alors effectivement, vous avez raison, c'est un sujet qui est d'actualité depuis un grand nombre d'années, et c'est une actualité qui dure. Nous ne pensons pas que le fait d'avoir un numéro unique fera perdre du temps, puisque l'organisation du service de réception commun, si je puis dire, serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une plateforme de débruitage qui va identifier le service qui est sollicité, force de l'ordre, les sapeurs-pompiers, le SAMU, voire encore d'autres services, avec potentiellement un premier vecteur qui soit envoyé dès les 2-3 premières minutes d'appel, et ensuite un questionnement plus poussé par un personnel qui serait spécialiste de la thématique, je reprends, force de l'ordre, secours, ou bien SAMU, qui lui pousserait l'investigation à savoir s'il y a besoin de compléter le vecteur qui a été envoyé ou pas. Oui.
Pour compléter, je pense que le numéro unique, ça permet aussi de faciliter pour la personne qui est témoin d'une situation, de ne pas avoir de questions à se poser sur qui est-ce que j'appelle. Si on prend l'exemple qu'on rencontre régulièrement d'un accident de la route, on a parfois des personnes qui se disent est-ce que j'appelle la police parce que c'est un accident, est-ce que j'appelle les pompiers parce que c'est un accident, est-ce que j'appelle le SAMU parce qu'il y a des blessés. L'idée, c'est de simplifier, de se dire je suis face à une situation d'urgence, j'ai un numéro. L'objectif premier, il est aussi pour l'usager de simplifier l'accès.
Et même s'il n'est pas natif de la France.
D'ailleurs, est-ce que vous, justement, vous recevez des appels de personnes qui ne souhaitent pas appeler, par exemple, la police le 17, par exemple, une femme battue, et dans ces cas-là, est-ce que vous le redirigez vers ce numéro?
Alors, bon, si c'était le cas, évidemment, on serait dans l'obligation de le faire. À ma connaissance, ça ne s'est pas produit, en tout cas pas dans les années récentes, pas à ma connaissance. Ce qui a pu se produire, c'est qu'au travers d'une prise d'appel ou d'une intervention sur le terrain, on se trouve sur une situation où on peut avoir un doute. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a obligation, mais comme tout citoyen, de porter à connaissance des instances qui gèrent ce type de problématique. Mais encore une fois, il faut être prudent. Et surtout au téléphone, sur une prise d'appel qui va durer maximum quelques minutes, c'est toujours très difficile. Mais au moindre doute, il y a un signalement qui est effectué.
Faudrait que je le retrouve. Il y avait un enregistrement qui était extrêmement intéressant qui, je crois que c'était les pompiers en Angleterre, où une personne appelle et appelait pour commander une pizza, je crois, et la personne qui traitait le numéro avait parfaitement compris que c'était une femme qui était battue. C'était aux États-Unis, pardon, j'ai une bêtise. Je rappelle que le numéro pour SOS femme battue, c'est 3919. On m'a dit que le 999 britannique, qui est l'équivalent donc du 17, est accessible aussi via le 911, le 911, à cause des séries américaines, donc sur le territoire britannique. Est-ce qu'un tel renvoi serait possible en France, voire souhaitable?
Bon, techniquement, tout est possible, bien sûr. C'est certain, de nos jours. Après, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on en aurait besoin? Je suis pas certain. Enfin, je vois mal une série, qu'elle soit vecteur d'une obligation de renvoi d'un numéro au niveau des secours. Ça me surprend un peu.
Et pourtant,
parce qu'en fait, le truc, c'est que le 911, qui est le numéro d'urgence américain, mais également, nous on a le 112 en Europe, mais les deux numéros sont utilisés dans d'autres pays. D'autres pays partagent et le 112 et le 911.
Alors, tout à fait. Savez-vous que avant qu'on soit
en numéro unique?
Non, en réunion avec vous pour faire cette émission, nous avons composé tous les deux le 911 et on tombe ici. On ne le savait pas.
Vous l'avez fait à partir d'un Pabix ou de vos téléphones portables?
Téléphone portable,
d'accord.
Ça ne marche que là-dessus d'ailleurs.
D'accord. Et ben dans ce cas-là, on revient après cette interruption publicitaire. Vous écoutez Radio FMR? C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat des pompiers pour parler de la prise en charge des appels d'urgence sur le 112. Alors, donc, vous nous avez invité sur votre lieu professionnel, là où il y a le plateau téléphonique. Combien de personnes opèrent sur ce plateau au téléphone et en support technique?
Capitaine Sébastien Marat.
Alors, on est sous, pour une activité courante, on a 9 opérateurs de traitement d'appels d'urgence, donc ils sont là pour répondre aux appels d'urgence sur la partie journée, 7 la nuit, parce que l'activité est un peu inférieure à la nuit, mais voilà, on est sur une activité courante, 9 pompiers professionnels la journée, 9 pompiers la journée, 7 pompiers la nuit, un effectif total de, on est à 80 sapeurs-pompiers pouvoir armer ce plateau 24 heures sur 24. Et bien évidemment, de nombreux collègues qui sont aussi d'astreinte et qui peuvent regagner ce centre d'appel si on a si on a une grosse intervention ou si on a de multiples interventions liées notamment à des événements météo.
Quelles qualifications faut-il pour se retrouver justement dans ce call center ?
Commandant Laurent Nicolas.
Alors, il y a deux qualifications qui sont propres à ce métier, je vais appeler ce métier ou cette fonction, cet emploi en tout cas. Auto, opérateur de transmission des appels d'urgence et opérateur de coordination opérationnelle. Donc ça correspond à deux fonctions dans la salle. Une personne qui va prendre les appels, qui va transmettre l'alerte, et une autre personne qui va gérer les opérations, participer à la gestion des opérations, notamment en administrant les voies radio. Ceci, ça représente 200 heures de formation, en dehors des heures qui sont passées en doublure auprès de personnel formateur qui vont valider petit à petit l'apprentissage de l'apprenant.
Alors, il y a quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires qui donc sont en plateau.
Tout à fait.
Il y a vraiment une différence de formation entre les deux, ou c'est tronc commun?
La formation est exactement la même, les missions sont les mêmes, les postes sont les mêmes. La seule chose qui les différencie, c'est le statut. Un sapeur-pompier professionnel, comme le nom l'indique, c'est son métier, il est professionnel. À côté de ça, le sapeur-pompier volontaire, il a une activité professionnelle et une partie de son temps libre est utilisé d'abord pour se former et ensuite pour réceptionner les appels en salle. Il peut être aussi utilisé pour ramener des véhicules de secours dans un centre d'incendie des secours, bien sûr.
Est-ce que vous avez une idée du type de formation pour l'autre type de secours d'urgence vitale qui est le SAMU, donc le 15? Sachant que le service, en plus, a été créé à Toulouse.
Alors, honnêtement, on connaît pas le contenu exact. On sait qu'ils ont une formation qui, dans les tenants et aboutissants, doit ressembler à la nôtre, forcément. Le questionnement est peut-être sensiblement différent. Le positionnement des ARM, hein, puisque on appelle ces personnels sous cet acronyme, est quand même sensiblement différent puisqu'il s'y situe en amont du médecin régulateur. Voilà. Donc on peut pas vraiment parler de ce qui est de leur formation. Je pense qu'il faudra que vous leur posiez la question.
Vous faites pas des échanges de temps à autre, des échanges culturels entre pays?
Alors, ce sont pas des échanges culturels, c'est des échanges pour se connaître, pour mieux travailler ensemble, bien sûr. Mais au niveau formation, ça s'est pas encore fait.
Est-ce que justement les centres d'appel discutent entre eux? Est-ce que vous avez un standard ou c'est chacun?
Obligatoirement, tous les centres de réception des appels, que ce soit ceux du SAMU, de la police, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers, sont interconnectés et se passent les informations au fur et à mesure en fonction de ce qui intéresse les uns ou les autres, bien sûr.
D'accord. Et du coup, cet échange de données, il y a quoi? Il y a les métadonnées qui vont en plus avec, c'est-à-dire d'où vient l'appel, pourquoi il l'appelle et tout?
Alors,
ça
éventuellement, suivant les circonstances, mais c'est surtout...
C'est à la voix ou c'est prêt
en... Non, c'est à la voix. C'est à la voix, mais il s'agit surtout de partager les interventions en termes de thématiques et de positionnement géographique dans les meilleurs délais, de manière à savoir si les forces concourantes, comme par exemple les forces de l'ordre, sont capables de se déplacer, dans quelle mesure, dans combien de minutes, ainsi de suite.
D'accord. Est-ce que vous avez un PRA, un plan de reprise d'activité, si la plateforme tombe en panne, est piratée ou simplement en surcharge? Alors effectivement, il y avait cette question vis-à-vis d'Orange, mais on va parler là ce mois-ci. Donc c'est les 20 ans de l'incident d'AZF, donc il y a eu, je suppose, un débordement de plateaux et tout ça, quoi.
À l'époque. Oui. Alors vraisemblablement, moi, j'avoue, je travaillais ce jour-là, mais j'étais en centre de secours. Du coup, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est produit au niveau du CTA et du CODIS. Il y a des chances, effectivement, que l'activité eût été très importante. Ce qu'on peut dire pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que chaque outil dispose d'un mode dégradé avec des solutions palliatives. On n'a jamais eu la malchance d'avoir tout un pont en même temps. Heureusement pour nous, le bug qu'a connu Orange, que vous avez cité, a eu pour conséquence que les appels ne rentraient pas chez nous. Donc, tout appel qui rentre pas, on peut pas le décrocher, bien évidemment. Ensuite, évidemment, il nous est arrivé sans doute d'avoir des soucis techniques à un moment ou à un autre, mais les solutions dégradées ont toujours fonctionné.
D'accord. À une époque, on avait donc des bornes qui étaient installées en ville, qui étaient sur les places importantes, qui étaient reliées aux plus proches, des casernes les plus proches en fait, qui répandaient de chaque quartier. En cas d'urgence, il fallait s'y ruer, briser la glace, littéralement l'ouvrir, décrocher, on tombait sur la caserne des pompiers. Est-ce que ça existe encore? Et est-ce que ça se traite encore? Ou il n'y a plus ce genre de bornes d'appel public et on compte sur le fait que chacun ait un téléphone à la main?
Aujourd'hui, ça n'existe plus, au même titre que les cabines téléphoniques qui vont pas parler aux plus jeunes qui nous écoutent, mais qu'on a connu nous, n'existe plus.
Attendez, il y a toujours l'obligation d'avoir deux cabines téléphoniques par commune, non?
Au moins une cabine par commune, et une deuxième si la commune dépasse les 50 000 habitants.
Donc c'est ça, donc il y a encore une obligation.
Bon, on savait pas.
Faut tomber dessus.
L'obligation va disparaître en 2025.
Vous voulez un stylo pour noter?
Mais pour autant, on parlait tout à l'heure, mon collègue parlait des modes dégradés. On peut avoir un mode dégradé qui est de contacter le centre de secours de proximité. Si vraiment on avait des gros problèmes de téléphonie, de contacter la caserne de sapeurs-pompiers qui est la plus proche de chez vous. Voilà. Donc on peut encore avoir vraiment des modes dégradés où l'alerte part du plus près du territoire. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de centraliser tous les appels et puis que ce soit géré. Parce que l'essentiel des appels aujourd'hui arrive avec des téléphones fixes ou maintenant des téléphones portables.
Est-ce qu'il y a encore des appels par radio, par exemple le CB Canal 9 ou Radio Amateur? Qui est à l'écoute dans ce cas-là?
Non, pas ici.
D'accord.
Nous ne sommes pas à l'écoute, ça c'est sûr.
Ok, on fera passer le message à John McClane qui est en haut de la tour Nakamura. Je crois que ça l'intéressera. La suite de cette passionnante conversation sera diffusée la semaine prochaine dans notre émission et la version intégrale est disponible dès maintenant sur notre site web cpu.pm. Merci commandant Laurent Nicolas, merci capitaine Sébastien Amara. On continue la semaine prochaine toujours avec vous. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Amara pour parler de la prise en charge des appels d'urgence sur le numéro court le 112 qui est opéré par les pompiers.
Pour les sourds et muets, il y a un numéro d'urgence accessible par SMS ou visio, le 114. Qui est derrière et qui l'opère?
Alors là, je crois qu'ils sont aveugles en plus.
Non, alors sincèrement,
on veut pas vous mettre mal à l'aise. Hein.
Non, du tout. Absolument pas vous dire qui fait quoi. Simplement, nous, on reçoit l'appel qu'ils nous ont retransmis par la plateforme.
D'accord. Commandant Laurent Nicolas.
Le moyen qui va relier la personne malentendante, par exemple, à cette plateforme, très sincèrement, je le connais pas. Néanmoins, on a récemment eu des exercices sur le sujet qui se sont passés les week-ends, qui se sont très bien passés. Les appels ont été reçus ici, l'envoi des secours s'est réalisé normalement, de manière simulée, évidemment. Mais peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer pour savoir qu'est-ce qui se passe finalement entre la personne malentendante et...
Alors ça peut être joignable par fax, par SMS, et on a eu une fois quelqu'un qui est lors d'un festival à Mixart qui était un petit peu bourré, qui était sourde, et les autres collègues sourds faisaient ouf, donc on a appelé en visio le 114, et du coup on parlait avec cette personne, et elle disait montrez-moi le TIF. Montrez-le-moi, et il lui a parlé en LSF. D'accord. Donc c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Par contre, effectivement, je ne sais pas qui l'opère. Ça ne répond pas à notre question. Mais bon. Un des problèmes sur les appels d'urgence, c'est d'obtenir la localisation. Alors, je suppose que la gestion de la cartographie doit être ultra importante pour vous, que ça fait gagner du temps. Vous utilisez des bases de données grand public, des outils grand public, genre Waze ou Apple Maps, ou est-ce que vous avez votre propre système?
Alors, il y a une cartographie qui est propre à l'établissement, mais qui est basée sur une solution IGN, qui est enrichie, qui est vérifiée, qui est enrichie par les services du SDIS. enrichi pour tous les éléments qui nous intéressent, notamment les points d'eau, les choses comme ça, que tout le monde peut comprendre cet aspect important pour les pompiers. Donc effectivement, en salle, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait plusieurs écrans, il y a un logiciel métier et il y a un écran sur la cartographie. Il faut savoir que chaque point, chaque lieu qui existe dans le logiciel métier existe sur la cartographie et est lié. C'est-à-dire qu'on peut prendre un appel soit en naviguant dans la cartographie, soit en allant le chercher dans les bases de données qui sont sur le logiciel métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a différentes solutions pour réaliser une géolocalisation, si tant est qu'il y en ait besoin, bien sûr. Et puis, chaque opérateur a accès à Internet, et donc les outils grand public que vous évoquiez à l'instant peuvent aussi être utilisés, et ils sont parfois d'un grand secours. Donc, ils sont à disposition de chaque opérateur, de chaque adjoint ou chef de salle pour optimiser la prise d'appel, si tant est qu'on ait un souci pour réaliser la localisation de la plan.
Alors, au Royaume-Uni, il y a un dispositif qui a été installé depuis 3 ans sur le numéro court, le 999, où en fait, ils vous disent télécharger l'application What3Words, application qui fait appel à géolocalisation portable, qui donne 3 mots. C'est cette phrase à 3 mots qu'on doit redonner à l'opérateur et qui donne une localisation à 5 mètres, d'après ce que j'ai compris, à 5 mètres près. Alors, est-ce que vous avez suivi cette expérience? Je tiens à signaler qu'elle se fait défoncer, cette application, actuellement, puisqu'il y a quelqu'un qui a bêtement fait une étude d'homophone et qui s'est rendu compte qu'il y a des lieux qui ont presque le même prononciation, voire même des pluriels, qui sont à moins de 10 km l'un de l'autre. Donc ça a posé beaucoup de soucis.
Alors non, on n'utilise pas cette solution aujourd'hui. Elle a été testée par le service en charge de l'innovation. Mmh. Et on doit prochainement en discuter pour voir s'il y a un intérêt à la retrouver en salle.
C'est un service national ou c'est un service local?
Non, service
local.
DUS10 de la Haute-Garonne. Et il y a des personnes qui sont en charge notamment de l'innovation et vers qui on oriente les idées un peu innovantes qui pourraient être intéressantes pour le service. C'est ce service-là qui est chargé de les évaluer avant de les mettre à disposition, ne serait-ce qu'en test.
Alors, il y a une proposition du standard GSM qui permet d'envoyer des métadonnées de localisation, notamment lors d'un appel au 112, qui s'appelle l'AML, Advanced Mobile Location. Sur 19 pays de membres de l'UE qui sont censés l'avoir déployé, 8 ne l'ont toujours pas fait. Est-ce que c'est le cas aussi également en France?
Non, chez nous, ça marche.
Depuis combien de temps?
Je ne saurais pas vous dire historiquement, mais
j'ai cru comprendre que c'était seulement depuis le début d'année.
Oui, c'est pas depuis très longtemps effectivement, mais ça fonctionne, sachant qu'il y a un fabricant de téléphone qui pose un petit peu souci encore.
On peut faire de la pub pour lui, ouais.
Même James.
Voilà, donc bon, ça, ce sont des soucis de paramétrage au niveau du système d'exploitation du téléphone qui vont être levés et derrière les deux gros fabricants de téléphones, on va dire, vont faire en sorte que ça fonctionne. Voilà.
Vous avez vraiment senti la différence du coup, avoir l'info de localisation qui était donnée directement?
Honnêtement, non. On s'en est pas servi récemment. Mmh. On n'a pas eu besoin de s'en servir aussi. Il faut vraiment en avoir besoin pour.
Je croyais que la métadonnée était envoyée en fait au début de l'appel justement.
Ça n'interdit pas le fait que le requérant vous précise clairement où il se trouve, et quand il y a aucun doute, vous n'avez pas forcément besoin. Ce que je veux dire, c'est ça.
Okay.
En dehors de ça, si je peux me permettre,
oui.
au niveau de la géolocalisation, il y a un système d'envoi de SMS avec retour pour une triangulation qui existait précédemment, qui existe toujours, mais qui est un petit peu plus long. Voilà, donc ça, c'est toujours utilisable aussi éventuellement si jamais on a un souci de localisation.
Ce que vous appelez plus long, c'était le...
En termes de délai.
Oui, puisqu'il faut la manie, puis il faut recevoir le SMS.
Ça prend plusieurs minutes et le téléphone du requérant renvoie, donc voilà, ça c'est...
Plusieurs minutes, ça compte pour une vie, quoi.
Effectivement, c'est un peu plus long.
Un designer UX, expérience utilisateur, qu'on a déjà interviewé dans cette émission, Julien Dubedoux, a été invité dans un projet de start-up d'État pour faire une application d'appel. Finalement, il est allé jusqu'à créer un prototype non fonctionnel de démonstration qui est accessible sur un navigateur web en tapant urgence au pluriel .app. Alors, est-ce que vous l'avez essayé? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Sachant qu'on va lui transmettre la réponse après, n'hésitez pas.
Non, honnêtement, alors moi, je connaissais pas du tout. On a navigué un petit peu avec Sébastien 2 minutes tout à l'heure parce qu'on était un petit peu curieux. On n'est pas allé au bout.
Ouais, mais après, il y avait beaucoup de lorem ipsum. Faites pas forcément latin. Donc ça...
On n'est pas allé au bout de la démarche. Je sais pas, ça me semble un peu long. Je ne sais pas quels sont les autres retours que vous pouvez connaître.
D'accord. Et vous, ce genre de solution, vous pensez que c'est intéressant ou finalement peut-être trop compliqué?
J'imagine pas un appelant en véritable détresse se servir de cette application-là pour passer un appel de secours. Ou alors, ça voudrait dire qu'il a que cette solution à sa disposition. Mais s'il a la possibilité d'appeler, enfin, je vois pas.
D'accord. Sébastien Marat, peut-être, vous avez votre avis?
Je pense que c'est dans certainement le panel aujourd'hui qu'il faut, enfin, les futurs logiciels de traitement des appels vont ouvrir certainement cette palette-là. Maintenant, je pense que la voie, l'évolution peut-être la plus notable qu'on aura, c'est qu'on va passer de la voix à la vidéo, peut-être. Je pense que demain, on aura certainement beaucoup plus d'appels qui seront plus uniquement de la voix, mais de la vidéo, ce qui va aussi modifier la prise en compte qu'on aura d'un appel chez nos opérateurs. Mais je pense que, voilà, comme disait mon collègue, ce contact voit, quand je suis dans une phase, une situation d'urgence, il est aujourd'hui
l'appelant
primordial.
Il est vraiment dans une phase réflexe. Donc, s'il faut ouvrir une appli, s'il faut naviguer dans l'appli, remplir les champs, finir par envoyer, je suis pas certain que ça soit accessible aujourd'hui. Après, encore une fois, dans une situation dégradée que j'ai même pas à l'esprit, qui me vient même pas à l'esprit, s'il y a que ça, pourquoi pas. Le moyen de communication manquant, s'il ne reste que cette solution.
Honnêtement, je crois me souvenir que c'était l'idée, c'était de remplir le temps d'attente pour donner des infos en plus. Si on est à 15 secondes de réponse, oui, c'est.
Non, honnêtement, ça me paraît long. Voilà.
Alors, on parlait de visio, justement. La visio, on l'a sur les téléphones depuis la 3G. Ça n'a jamais décollé. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez italien, je pense. Puisque là-bas, ça a cartonné, au contraire. Il y a eu aussi l'arrivée de la VoIP quand il y a eu Skype. Très rapidement, Skype a été obligé de mettre un message pour dire « Attention, ne passez pas d'appel d'urgence là-dessus » et tout ça. Mais finalement, avec tous les outils que l'on a d'appel visio, que ce soit FaceTime, Signal, même finalement l'appel téléphonique standard Google Talk ou je ne sais, est-ce que vous y êtes intéressé de savoir comment vous pouviez vous interfacer dessus ou c'est trop compliqué parce que c'est pas assez régional, assez local?
Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est pas assez régional ou assez local. Simplement, aujourd'hui, notre système de réception des appels n'est pas prévu pour ça. C'est déjà le premier point. Donc, même si vous voulez passer un appel visio, vous aurez quand même du mal à le passer. Vous passerez un appel, il ne sera pas visio. Ce qui se discute actuellement avec une société qui est venue nous présenter une solution, ça serait d'être en capacité et éventuellement de prendre la main sur l'appelant au niveau de la caméra de son smartphone, pour avoir un visuel de la situation. Voilà. Ça, ce style de solution, certainement qu'on va le soumettre au service en charge de l'innovation au sein du 10-31 pour voir si il y a un intérêt à travailler sur le sujet. Je sais qu'il y a d'autres 10 en France qui le teste, qui essaie de voir si ça apporte quelque chose. Ça apportera pas quelque chose dans toutes les situations parce qu'il y aura pas matière, mais peut-être que dans certains cas, ça permettra le fait de visualiser le début du sinistre, ça permettra de bien dimensionner les secours, parce que c'est quand même quelque chose de difficile. Et comme disait Sébastien tout à l'heure, si vous envoyez les secours en quantité à un endroit là où il n'y en a pas besoin, ça peut manquer ailleurs. Voilà.
Sébastien Marat, Laurent Nicolas, ne bougez pas, on revient juste après ceci. Vous écoutez Radio Éphémère, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat, des pompiers, pour parler de la prise en charge des appels d'urgence au numéro que vous connaissez sûrement par cœur, le 112. Et à propos du 112, si on prenait la place des autres?
Et oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il existe un jeu qui s'appelle 112 Operator, et dont on joue justement le téléopérateur du 112 dans la ville de son choix, voire même de plusieurs villes. Est-ce que vous avez déjà eu des logiciels de simulation? Est-ce que ça peut faire partie d'un exercice?
Commandant Laurent Nicolas.
Des logiciels de simulation, non. Il y a plusieurs, alors on n'en est pas spécifiquement connaissance de celui-là, je crois qu'il y a plusieurs prestataires qui s'inscrivent dans cette démarche de simulation. Donc des logiciels de simulation, non. Pour autant, on a naturellement, pour former nos sapeurs-pompiers, nos collègues qui sont formateurs, qui sont eux de bons simulateurs et qui utilisent toutes les situations qu'ils ont connues pour mettre au plus près de la réalité nos collègues qui sont en cours de formation. Donc, la simulation, elle se fait par le jeu d'acteurs de nos formateurs, en fait.
Est-ce que vous faites des exercices entre différents services de secours, style avec le SAMU et la police, pour un exercice de simulation d'urgence particulière, type attentat, type catastrophe industrielle, excepté celui d'AZF, puisque là, c'est pas du jeu, ça a déjà eu lieu.
Il y a des exercices qui sont pilotés par la préfecture, qui sont réalisés chaque année, qui ont deux objectifs. Alors, le premier, c'est sur le terrain, de s'assurer que toutes les forces, que ce soit les pompiers, les polices, le SAMU, travaillent ensemble et aient des habitudes de travailler ensemble dans ces situations qui sont des situations d'urgence. Et c'est aussi l'occasion entre nous, nos collègues du SAMU, les plateformes d'urgence de la police et de la gendarmerie aussi, de partager les pratiques lors de ces exercices.
Est-ce que justement ce type de jeu où on joue justement le rôle d'un opérateur peut pas faire vocation?
Peut-être, je sais pas. J'avoue que moi je le connais pas du coup. Alors pour être complètement
sincère, on est désolé pour les heures perdues à venir. Hein.
pour être complètement sincère,
commandant Laurent Nicolas.
Il y a peu, j'ai recruté un pompier volontaire qui est le frère d'un pompier professionnel, et dans l'entretien qu'on a pu avoir ensemble avec cette personne, il m'a expliqué qu'effectivement, alors c'est quelqu'un d'assez jeune, donc du coup évidemment il pratique les jeux, et il m'a expliqué qu'il s'amusait, qu'il jouait sur des jeux de ce type-là, mais on n'a pas été plus loin, et comme moi je pratique pas du tout, ouais, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais effectivement, si du moment que ça reste quelque chose de réaliste, effectivement ça peut engendrer des vocations, j'imagine.
Justement, on parlait des bornes dans une question précédente. Qui s'occupe des bornes sur les autoroutes?
C'est la gendarmerie ou la police autoroutière, en fait, qui réceptionne les demandes qui sont formalisées sur ces bornes autoroutières.
D'accord. D'ailleurs, quand les personnes qui opèrent ces bornes ont accès du coup au réseau de caméras qui quadrille justement le réseau autoroutier, est-ce que vous avez accès à un ou plusieurs réseaux de caméras de vidéosurveillance sont sur le domaine public? Et la police, je suppose que oui, ils y ont accès, ça c'est une évidence, mais vous?
Il y a un conventionnement récent qui nous permet d'avoir accès aux images de la vidéosurveillance de la ville de Toulouse, donc pilotée par la police municipale, qui s'inscrit dans un cadre précis, qui est quand une caméra peut nous permettre, lorsqu'on prend un appel pour une intervention, d'avoir un visuel complémentaire à la prise d'appel. Et le flux vidéo arrive ici, donc c'est vraiment dans le cadre d'intervention. On n'a pas vocation, nous, à faire de la surveillance ou à visualiser des caméras, mais maintenant, aujourd'hui, on a effectivement des premiers retours vidéo des caméras de la ville de Toulouse, et puis un travail qui est en cours de conventionnement avec d'autres prestataires, typiquement Tissé. Enfin, voilà, il y a des discussions qui peuvent avoir lieu avec Tisséo, et des discussions qui peuvent avoir lieu avec la DIRSO sur la partie périphérique. Mais c'est une piste d'évolution qui a pris en premier effet aujourd'hui, en ce moment, le fait que les caméras de la ville de Toulouse peuvent arriver chez nous.
Du coup, il y a une discussion permanente avec les autres services, c'est-à-dire avec la police, avec le SAMU. Du coup, comment ça se passe justement ce flux entre les différents
Il y a un partage d'informations quasi instantané sur notre engagement opérationnel, qu'il soit présent ou à venir. Dès qu'on prend une intervention, on engage nos moyens si évidemment c'est nécessaire, et on prévient les services partenaires quand on estime qu'ils doivent être prévenus, soit pour être juste au courant, soit pour eux-mêmes intervenir.
Justement, les réseaux d'entreprise, on va avoir un petit numéro à faire avant de sortir, si je puis dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation, justement, est-ce que les numéros d'urgence, ça soit accessible même sur ces PABX et autres téléphones d'entreprise?
À ma connaissance, non. Il n'y a pas d'urgence.
Parce que c'est vrai que des fois,
il faut savoir qu'il faut un
préfixe pour accéder en extérieur. Ouais. D'autres fois, c'est pas super bien configuré. On se retrouve avec le service de Lyon au lieu d'être avec le service de Toulouse, ce genre de choses.
Véritablement, s'il y a une obligation à avoir un accès direct sur le 18 ou le 112, moi, je le connais pas.
C'est sur cette très triste nouvelle que malheureusement on va conclure. Commandant Laurent Nicolas, merci beaucoup. Capitaine Sébastien Marat, merci beaucoup de nous avoir reçus au sein du CODIS, donc du centre d'appel départemental au 10-31. Vous ne bougez pas, on va de suite rejoindre justement le designer UX dont on parlait tout à l'heure. Merci pour tout.
Merci.
Merci à vous. Merci.